France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Un rite, un rituel, une sanction, le baccalauréat. Il semble que dans la population française, dans toutes les générations, ce sont celles et ceux qui l'ont raté définitivement ou qui ne l'ont obtenu que l'année suivante qui s'en souviennent le mieux ou pour qui il a le plus compté, évidemment. Sinon, réussir ses bacs, puis son bac, ce n'était pas a priori une épreuve si marquante que cela. Ou bien, si, peut-être dans les rêves, et bien plus tard, ou plus précisément, dans les cauchemars. On repasse son bac, enfin on doit le repasser, et des tas d'incidents terrorisants, grotesques ou humiliants empêchent que cette épreuve se déroule correctement. Mais le baccalauréat n'est pas qu'un objet d'étude psychologique ou biographique, le baccalauréat est à étudier d'un point de vue historique, à travers sa création et ses multiples avatars ou grandes réformes. Et depuis la diffusion du lieu de mémoire qui suit, juillet 1998, des réformes du bac, il y en eut certainement beaucoup.
Lieu de mémoire, le baccalauréat.
D'une certaine façon, si une existence n'est pas rythmée par des occasions, des grandes occasions où on met le paquet, des grands moments, on risque de tomber dans le train-train, la routine du contrôle continu, il manque quelque chose, il manque, comment dire, un peu d'apparat, quoi. Il faut cette espèce de mise en scène, cette préparation, cette espèce de... Il y a un silence, il y a le bac, et puis il y a autre chose ensuite, enfin, je pense.
Je me préparais donc pour le voyage de Nîmes, où, en ce temps, se faisaient les bacheliers. Ma mère me plia deux chemises repassées avec mon habit des dimanches dans un mouchoir à carreaux, piqué de quatre épingles, bien proprement. Mon père me donna, dans un petit sachet de toile, 150 francs d'écu en me disant « Au moins prends garde de ne pas les perdre, ni de ne pas les gaspiller. » Quand j'arrivais à Nîmes, je rencontrais un gros écolier des environs qui venaient comme moi passer leur baccalauréat. Ils étaient pour la plupart accompagnés de leurs parents, beaux messieurs et belles dames, avec les poches pleines de recommandations. Et tous se rengorgeaient et faisaient sonner le talon avec un petit air de dire « Nous sommes sûrs de notre affaire ». Moi, petit campagnard, je n'étais pas plus gros qu'un pois, car je connaissais absolument personne. Et tout mon recours, pauvre, était de dire à part quelques prières à Saint-Baudile, qui est le patron de Nîmes, pour qu'il mît dans le cœur des examinateurs un peu de bonté pour moi. On nous enferma à l'hôtel de ville, dans une grande salle nue, et là, un vieux professeur nous dicta d'un ton nasillard une version latine, après quoi, humant une prise, il nous dit « Messieurs, vous avez une heure pour traduire en français la dictée que je vous ai faite, maintenant, débrouillez-vous. » Et dardard, plein d'ardeur, nous nous mîmes à l'œuvre. À coups de dictionnaire, le grimoire latin fut épluché. Puis, à l'heure sonnante, notre vieux priseur de tabac ramassa les versions de tous et nous ouvrit la porte en disant « À demain ». Ce fut la première épreuve. Mémoires et récits, Frédéric Mistral, 1906.
Brevet de bourgeoisie pour certains, Rite de passage pour d'autres, le baccalauréat s'est inscrit d'une manière durable dans l'univers social des Français, au point de devenir une institution capable de résister à toutes les attaques et de survivre à toutes les réformes. Aujourd'hui encore, le baccalauréat est l'examen le plus populaire, le plus mythique, mais aussi le plus médiatisé, au point d'investir une grande partie du champ de réflexion sur l'enseignement secondaire. Ainsi, le baccalauréat se pose comme la mémoire toujours contrariée de l'impossible réconciliation des exigences sociales et des ambitions intellectuelles de la société. André Chervel.
Avant le 19e siècle, le baccalauréat et les différentes formes d'examen, du genre le doctorat, étaient des examens, des grades des différentes facultés, que ce soit les facultés des arts, je parle de l'Ancien Régime, qui sont à l'origine des facultés des lettres, ou les facultés de théologie, de droit et de médecine. Donc il y avait ces titres-là dans d'autres domaines que le domaine des lettres ou des sciences qui nous intéressent aujourd'hui. Mais il est de fait que c'est le régime napoléonien et les décisions de l'année 1808 qui donnent au baccalauréat toute l'importance qu'il a eu aujourd'hui. Les premiers baccalauréats au sens moderne ont été passés en 1810 lors de la création des différentes facultés des lettres en France. La nécessité pour Napoléon, c'est que, pour Napoléon, disons Fontane, qui est le grand maître de l'université sous Napoléon, la nécessité, c'est de donner une sanction à ses études secondaires qu'il est en train de mettre en place à l'époque. Il faut qu'elle se termine sur quelque chose de clair, qui soit monnayable sur le marché universitaire, pour les facultés de droit, de médecine, etc. Il faudra avoir le baccalauréat. Mais il faut bien le dire qu'au début de la tradition, dans ces années dont nous parlons, Napoléon par exemple, les concours importants ou les examens importants dans l'enseignement secondaire, ça n'est pas le baccalauréat, c'est le concours général. Le baccalauréat, des quantités d'étudiants, de lycéens, ne le passent pas parce qu'ils vont faire autre chose dans la vie. Prenez l'exemple de cette nouvelle école qui vient d'être créée, qui s'appelle l'école polytechnique. Eh bien, le baccalauréat n'est pas requis pour entrer à l'école polytechnique. Et le baccalauréat S-lettres ne sera jamais requis pour entrer à l'école polytechnique, même si le ministère de l'instruction publique fera pression sur le ministère de la guerre, comme on dit à l'époque, pour qu'il donne pour qu'il exige des candidats à polytechnique le baccalauréat S-lettres. Le ministère de la guerre refusera toujours. C'est vous dire que le baccalauréat n'a pas, au début, l'importance considérable qu'il va acquérir peu à peu, car plus tard, c'est le baccalauréat S-sciences qui va être requis pour entrer à l'école polytechnique.
Alors, comment va s'instaurer ce baccalauréat? Comment il va s'installer dans les mœurs scolaires et universitaires?
Alors, il commence en 1810, et peu à peu, il se répand, donc il se généralise dans toute la France. Ce sont les facultés des lettres qui sont chargées d'attribuer, de décerner le baccalauréat. Alors, une deuxième instance est chargée pendant une vingtaine d'années d'attribuer le baccalauréat, en plus des facultés des lettres dans les régions où elles exercent, où elles fonctionnent. C'est ce qu'on appelle les commissions des lettres, c'est-à-dire ce sont les professeurs du lycée, sous la présidence de leur proviseur, qui sont chargés d'attribuer le baccalauréat. Voilà, si vous voulez, pour le fonctionnement. En 1847 exactement, le ministère supprime les commissions des lettres, crée un petit peu partout des facultés des lettres, à peu près celles qu'on a connues encore, ou celles qui vont vivre pendant 100 ans avant l'énorme explosion d'enseignement supérieur. Et un peu partout, ça va être désormais les facultés des lettres qui vont accorder le baccalauréat. Le baccalauréat est un baccalauréat littéraire. Il s'appelle le baccalauréat S-lettres jusqu'en 1890 ou 91. Il y a également un baccalauréat S-sciences, dont j'ai eu difficile de refaire l'histoire, parce qu'il est d'abord passé après le baccalauréat S-lettres par des bacheliers S-lettres, et puis à partir de 1850 à peu près, ils sont mis en parallèle, on passe soit le baccalauréat S-lettres, soit le baccalauréat S-sciences. C'est le début de la bifurcation, où les étudiants, les élèves...
De l'orientation.
Voilà, de l'orientation. On appelle que ça s'appelle la bifurcation, en 1852. Et donc, vous avez deux séries de baccalauréats qui vont commencer à fonctionner. Pour ce qui est des épreuves écrites ou orales, le baccalauréat S-lettres n'a pas d'écrit jusqu'en 1840. en 1800, c'est un oral. Ce sont des épreuves orales pour lesquelles il y a un bachotage infernal en histoire, en rhétorique, en philosophie, etc. Mais en 1830, on s'aperçoit que la plupart des, que beaucoup de lycéens qui ont le baccalauréat ne savent pas l'orthographe. Alors on décide
déjà.
Même déjà un petit peu plus tôt. Dès 1820, il y a des témoignages de cet ordre. Alors on installe une vague épreuve écrite pour s'assurer de leur orthographe, mais l'épreuve écrite ne compte pas, elle est perdue au milieu des épreuves orales. Et c'est Victor Cousin en 1840 qui impose une épreuve écrite obligatoire et une épreuve écrite qu'il faudra avoir réussi pour passer les épreuves orales, c'est-à-dire que c'est le système de l'admissibilité. Cette épreuve écrite est une épreuve de français, c'est une version latine, ce qui paraît contradictoire. Mais dans cet enseignement tout latin qui est celui du 19e siècle, une version latine, c'est le moment où l'élève écrit en français. Et on s'aperçoit à ce moment-là que, effectivement, le niveau en orthographe est très bas. Et il y a entre l'année 1839 et l'année 1841, on s'aperçoit d'une chute considérable du nombre des lauréats au baccalauréat. C'est l'orthographe qui les a fait connaître.
Une complainte de quatre étudiants, faites pour donner la crainte des petites femmes aux jeunes gens, faites pour donner la crainte des petites femmes aux jeunes gens. Premier faisait des lettres, le second du droit romain, troisième faisait des dettes, quatrième faisait rien, troisième faisait des dettes, le quatrième faisait rien.
Il y a à peu près combien de lauréats à cette époque-là, là, au milieu du 19e siècle?
Du 19e siècle, Paris occupe presque la moitié des chiffres. Hein. C'est surtout la Sorbonne qui fait passer des baccalauréats. Quoi.
On reparlera de ça plus tard. Bien évidemment, il n'y a pratiquement pas de femmes. Il n'y en a même peut-être pas du tout. Et elles n'ont pas le droit de le passer, même si...
De toute façon, même les femmes qui passaient le baccalauréat n'avaient aucune formation officielle pour le baccalauréat, puisque il n'existait pas d'enseignement secondaire féminin public. Il existait un enseignement secondaire féminin privé, bien entendu, mais où les filles ne faisaient pas de latin. Or, le baccalauréat, c'était d'abord le latin. Donc, il fallait qu'elles apprennent par elles-mêmes le latin, qu'elles se débrouillent pour acquérir cette compétence assez importante. Et on cite, au début des années 1850, les premières jeunes filles qui passent le baccalauréat. Elles sont extrêmement rares. Il paraît que la première se serait vue refuser, non pas à cause de ses épreuves. Elle était donc reçue du fait du jury, mais le recteur, ou je ne sais plus quelle instance universitaire, aurait refusé cette jeune fille par principe, parce que c'était une jeune fille. Entre la société et le baccalauréat, il y a évidemment tous les écrans que constitue l'enseignement humaniste, classique, traditionnel. Il y a la société d'une part, et puis quand les élèves entrent dans les collèges ou les lycées, ils font du latin, Cicéron, Tite Live, les harangues de Tite Live, ils apprennent à faire des vers latins, des discours latins. On est déjà très loin de ce qui se passe dans la société. Il est évident que le baccalauréat représente d'une certaine façon ces études-là, et donc est à l'origine quelque chose de très traditionnel, où on répète les règles générales de la rhétorique, et c'est parmi les questions données au baccalauréat, c'est qu'est-ce que c'est que la rhétorique, qu'est-ce qu'une figure, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, etc. Et peu à peu, on s'aperçoit que le baccalauréat est non seulement obligé de se moderniser, mais sans doute un des éléments de la modernisation, un des agents de la modernisation de l'enseignement secondaire français. J'en prends un exemple. En 1853, le nouveau ministre de Napoléon III, Fortoul, qui est un homme autoritaire, mais un moderniste par certains côtés, introduit une deuxième épreuve écrite, après celle que nous avons évoquée tout à l'heure, la version latine, une deuxième épreuve écrite qui est la composition française. Exactement, c'est une composition française ou latine suivant que le sort en décidera. Et il est très intéressant de voir que, à la même époque, l'enseignement secondaire, et en particulier la classe de rhétorique, c'est-à-dire la première, hein, celle qui prépare en principe les élèves au baccalauréat, ne les préparait pas jusque-là à la composition française, et que les professeurs sont obligés en quelques années, sinon de se recycler, du moins de se mettre au goût du jour et de commencer à faire des compositions françaises à leurs élèves. Des compositions françaises sur quoi? C'est un problème, pour nous, il ne se pose pas. Nous avons derrière nous une tradition de presque un siècle et demi de composition française au baccalauréat. À l'époque, il n'y avait rien du tout comme tradition. Alors on voit apparaître des sujets les plus divers, du genre énoncer les règles d'accord du participe en français, ou description de l'arbre, utilité de la mer, mais aussi des sujets peu à peu de tout tournant autour de l'histoire, raconter la mort de Jeanne d'Arc, ou peu à peu de la littérature qui va s'installer peu à peu ainsi, grâce au baccalauréat probablement, dans les programmes de l'enseignement secondaire, ou grâce en partie au baccalauréat. Alors c'est surtout en 1880, si vous voulez, avec Jules Ferry, que le baccalauréat se modernise un grand coup, si je peux dire, et qu'on voit la société se précipiter à l'intérieur des formes du baccalauréat, en chasser le discours latin, par exemple, qui était encore l'épreuve majeure du baccalauréat jusqu'en 1880, il est chassé définitivement du baccalauréat à partir de 1881. Mais l'afflux des candidats au baccalauréat correspond au développement considérable au cours du siècle, dont on pourrait d'ailleurs nuancer l'évolution avec plus ou moins de force à tel moment ou à tel autre, l'évolution de ces couches sociales d'une part et de ces fonctions, ces professions de l'autre, qui sont celles de la petite et moyenne bourgeoisie, de la moyenne bourgeoisie surtout, en particulier les cadres administratifs, les fonctionnaires, etc. Le baccalauréat est requis, bien entendu, pour beaucoup de ces professions à travers des examens qu'ils sont obligés de passer ensuite, que ce soit la licence pour devenir professeur, il faut avoir le baccalauréat avant. Je prends le seul exemple des professeurs des toutes petites classes au 19e siècle, la grosse majorité d'entre eux n'ont que le baccalauréat.
On a fait des lois pour rendre l'instruction obligatoire. Quand fera-t-on une campagne de presse, des conférences et, s'il le faut, des distributions de tracts pour éviter qu'en France tout le monde veuille devenir bachelier? Quand l'université elle-même opérera-t-elle le tri des capacités, empêchera-t-elle les enfants mal dirigés de s'orienter vers une destinée qui n'est pas la leur? Quand se décidera-t-on à donner à la majorité une instruction vraiment adéquate aux besoins actuels et à ne réserver pour les études dites classiques que ces quelques futurs spécialistes propres à apporter une contribution efficace dans la branche des connaissances qu'ils auront choisies? Quand publiera-t-on les statistiques des bacheliers et des candidats aux professions libérales obligés de changer de voie après avoir gaspillé leur jeunesse à faire mal ce pour quoi ils n'étaient pas doués? Quand montrera-t-on leurs forces gâchées par des utilisations mal comprises, les initiatives perdues, les dons inemployés? Jeanne Galzy, professeur d'histoire et de français, La femme chez les garçons, Paris, 1919.
Toujours été contesté, soit certaines de ses formes, soit le baccalauréat en tant que tel a toujours été contesté. Il a fallu le remodeler sans arrêt. On lui reproche de figer l'enseignement secondaire, de l'organiser tout entier autour de quelques épreuves écrites et de quelques épreuves orales, d'empêcher les professeurs d'élargir les formes de leur enseignement parce que ils prépareront moins bien les élèves au baccalauréat, etc., etc. Je prends un exemple, le discours latin qui est imposé au baccalauréat de 1853 jusqu'en 1881. Il est de fait que ce discours latin, qui est une forme totalement aberrante de formation des enfants au 19e siècle, des enfants et des jeunes gens, eh bien, joue un rôle considérable dans le maintien de la France intellectuelle à l'intérieur de cadres de pensée traditionnels ou de formes de réflexion traditionnelles, et que ce n'est pas un hasard si l'on a pu accuser l'enseignement public français, d'être responsable de la défaite de 1870-71, c'était un enseignement, on continue à faire du discours latin d'un côté, on veut faire uniquement de l'orthographe de l'autre, je parle de l'enseignement primaire, où par exemple les élèves ne savaient pas la géographie, a-t-on dit, je reprends les critiques de l'époque bien entendu.
Et alors le mot bachotage a été très très tôt utilisé, l'idée d'une espèce de révision intense, et en même temps comme corollaire la fraude, c'est-à-dire oui. On payait voire le bac ou on soudoyait des membres du jury.
Le mot bachotage en fait est tardif, il date des années 1890, je parle du mot. Hein. Oui. La chose elle-même, ça s'appelait plutôt le chauffage. On chauffait les élèves, quoi. Et effectivement, c'est bien antérieur, quoi. Ça date des débuts, ou plutôt ça date de l'époque où les élèves ont commencé à s'intéresser véritablement au baccalauréat, c'est-à-dire en gros la monarchie de Juillet. Et où il a fallu on les a chauffés, effectivement. Mais il y avait effectivement aussi des phénomènes de fraude. Alors là, la fraude, c'est un vaste domaine, quoi. Une des formes les plus attestées de la fraude pour la version latine, c'était de se payer un traducteur qui, avec substitution de personne, venait se présenter à votre place, puisque personne ne vous connaissait, au moment de l'épreuve du baccalauréat, il faisait la version latine à votre place. À côté des phénomènes de fraude, de bachotage, etc., bon, il y a eu ce phénomène majeur d'une institution qui s'installe peu à peu, qui correspond à des besoins réels de la société française, enfin, disons en termes de classe, la moyenne bourgeoisie française. Et du coup, il s'installe et il y a un certain nombre de moments où le baccalauréat devient une institution de plus en plus solide.
Merci, mon ami, es war wunderschön. Tausend Dinge möchte ich dir noch sagen. Liebling, wir müssen uns wiedersehen. Es war ja so schön.
Madeleine Chapsal, écrivain.
Je crois que c'est un rite d'initiation pour tous les jeunes et qu'on n'oublie jamais. On peut oublier plein de choses, mais pas le baccalauréat. D'abord, c'était pendant la guerre. Et il se trouve que j'étais à l'époque réfugiée en Haute-Savoie, d'abord parce que j'avais la tuberculose. Et les épreuves se passaient à Annecy, les unes, et à Chambéry, les autres. Il fallait prendre un autobus, descendre de la montagne, être dans une ville inconnue, parce qu'on ne voyageait pas beaucoup à l'époque, et les cars étaient des gazogènes. Alors déjà, c'était toute une histoire, toute une affaire très angoissante. Et il se trouve que pour le bac, je ne me souviens pas exactement de l'année, si c'était 43 ou 42, il n'y a pas eu d'oral. Et ça, comme j'avais eu la tuberculose, je ne l'avais pour ainsi dire pas préparée, quelle n'a pas été ma surprise d'être reçue du premier coup. L'année suivante, je me suis donc présentée, beaucoup plus réconfortée par mon premier succès, aux épreuves de philosophie. Et bien là, j'ai raté. Parce que le sujet que j'avais choisi, c'était une phrase tirée d'Emmanuel Kant qui dit « Le ciel étoilé au-dessus de nos têtes et la loi morale dans nos cœurs ». Et moi, qui commençais déjà à essayer de penser par moi-même, j'ai dit que je ne comprenais pas du tout ce qu'était la morale. Que d'abord ça n'existait pas, qu'il n'y avait de morale que ce qui était bon pour l'individu, et le tout c'était d'arriver à passer outre aux obstacles et aux interdits, mais qu'on ne pouvait pas vraiment dire qu'il y avait une morale transcendantale. C'était pragmatique, au coup par coup, différent dans chaque société. Je ne suis pas loin de continuer à penser la même chose, mais il semble que ce n'est pas du tout ça que j'aurais dû dire, parce qu'en dépit du fait que j'étais considérée comme une bonne élève, j'ai eu 2, et j'ai été recalée. En tous les cas, à la première session, puisqu'on avait droit à une seconde session. Mon succès en philosophie a donc eu lieu à la rentrée, c'est-à-dire en octobre, et d'une façon qui, d'une certaine manière, m'a déçue, parce qu'elle était complètement conformiste, en ce sens que je me suis dit « Ah, c'est comme ça !» Eh bien, je vais apprendre les questions de cours par cœur.
Immer wieder will ich dir es sagen, Liebling, wir müssen uns wiedersehen, es war ja so schön.
André Chervel, on peut donc penser que le baccalauréat a eu une influence sur le système éducatif.
Il apparaît que le système éducatif est générateur de formes de culture tout à fait spécifiques. Formes de culture que, très souvent, on n'a pas pensé à analyser parce qu'on considérait qu'elles existaient déjà dans la société ambiante, dans la culture ambiante. Je prends l'exemple de la dissertation littéraire qui peu à peu se met en place grâce au baccalauréat au XIXe siècle. Eh bien, la dissertation littéraire, ça n'est pas la société qui la donne à l'école, qui l'impose au baccalauréat. La dissertation littéraire est une création du système éducatif, dans certaines de ses formes d'élite d'abord, l'agrégation des lettres, puis l'agrégation de grammaire, pas les concours d'ailleurs de l'école normale supérieure, ni le concours général, qui très longtemps reste affilié, si je peux dire, au vieux discours français traditionnel, où on faisait des harangues, etc. La dissertation littéraire est un exercice qui monte au XIXe siècle, qui va contribuer à former considérablement le nouvel esprit français, pour parler en termes très vagues et contestables, en tout cas former les Français, et ce type de culture est spécifique au système éducatif. Si vous voulez, le baccalauréat, en généralisant dans l'ensemble du pays, et pour des centaines et des milliers de candidats, cette forme nouvelle qu'est la dissertation littéraire, le baccalauréat va jouer un rôle créateur, en réalité, dans la culture française.
Inter, actualité.
Ce temps coupé d'orage, ce mauvais temps, c'est ce qu'il faut pour passer les examens. La chaleur joue contre les candidats, chacun sait cela. Donc, aujourd'hui et demain, c'est le bac. Deux journées difficiles pour les 300 000 candidats, 300 000 et plus, qui se présentent. Rien qu'à Paris, il y en a près de 70 000. C'est un record. Le résultat de la fièvre de repopulation d'après-hier. À 8 heures précises ce matin, avec le même geste solennel dans toute la France, les examinateurs ont déchiré les enveloppes qui renfermaient les sujets. Sujets de français et sujets de philo. Premier sujet de français, les essais. Est-ce un livre pour les hommes du temps de Montaigne? Est-ce un livre pour tous les temps? Ou les deux à la fois. Deuxième sujet, le roman et le romancier. Troisième sujet, Chateaubriand. Chateaubriand en 1817, alors qu'il traverse une mauvaise période. Un soir d'été, il se promène à la campagne et il entend chanter une grive. Le voilà tout d'un coup revenu à son enfance avec ce chant magique. Et il pense aux mémoires d'outre-tombe qu'il a abandonnées depuis 3 ans. Mettons à profit, dit-il, le peu d'instants qu'il me reste. Hâtons-nous de peindre ma jeunesse tandis que j'y touche encore. Au candidat, on demande de caractériser les sentiments et les moyens d'expression qui donnent à cette page sa résonance. Comment nos lycéens s'en sont-ils tirés? C'est ce que Michel Forgite a demandé à un certain nombre d'entre eux à la sortie du lycée Buffon.
Sans faire d'émission, sans faire d'émission, sans faire d'émission.
Oui, allez, c'est très bon, ça.
Monsieur, vous avez pris le premier sujet qui parle des essais de Montaigne. Qu'est-ce qu'on demande exactement?
Qu'est-ce qu'on demande? Eh ben, on demande de porter un jugement sur l'œuvre et sur au point de vue des auteurs du temps et des hommes du temps et des hommes de tous les temps. Ils sont plus valables encore pour tous les temps que pour le temps de Montaigne.
Ça a marché dans l'ensemble, vous êtes content?
Oui, on fait pas trop mal, j'espère.
Et pour les maths tantôt, c'est la grande forme?
Oui, ça va.
Vous avez pris le troisième?
Ben oui, troisième sujet.
De quoi ça parlait?
Bon, c'était Chateaubriand. Oui, c'est Chateaubriand, un extrait des mémoires d'outre-tombe. Le troisième livre, je crois, le premier chapitre.
Qu'est-ce qu'il fallait en faire?
Ben, il fallait expliquer à peu près ce qu'il disait, quoi.
Et vous l'avez bien expliqué?
Ben, j'ai fait ce que j'ai pu.
Vous êtes content?
En moitié.
Vous êtes plus fort en quoi, en maths ou en français?
En maths plutôt, bien sûr.
Vous cherchez de la part d'une grand-mère.
Qu'est-ce qu'elle dit, la grand-mère?
Supprimer le baccalauréat.
C'est votre avis?
Ça sert strictement à rien.
Pourquoi?
Mais parce que c'est visible qu'on est assez doué comme ça se voit sur notre figure.
Parce que vous les martyrisez.
Plus de bac. Plus de bac. C'est dommage, pour une fois, que je voulais faire un effort, pour une fois, que j'allais travailler. moi, je l'ai raté. L'année passée, je n'aurais pas de diplôme pour me récompenser. J'aurais bien mieux fait de travailler la méthode assimile et de réviser les mots difficiles au lieu d'écouter les disques yé-yé enregistrés par les Anglais. Plus de bac.
Claude Lelièvre, de quelle manière évoluent les chiffres des bacheliers au cours du XXe siècle ?
Aux alentours des années 1900, on est à 1%. À 1925, on est toujours à 1% d'une classe d'âge hein, qui ont le bac. Et bon, le bac à l'époque est quand même quelque chose d'assez difficile, hein, puisqu'il y a à peine 50% de ceux qui s'y présentent.
De ces 1% de classe d'âge.
Il y a 50% d'entre eux seulement qui l'obtiennent. Hein, nous ne sommes pas au taux de 77% actuel du rapport entre les présentés et les reçus.
Alors quand vous dites 1%, Claude Lelièvre, 1%, ça représente à peu près combien de...
Oh bien, ça représente environ 8 000 personnes.
Dans toute la France.
Dans toute la France, hein, c'est-à-dire que bon, c'est 1% sur 800 000 à peu près, dans une classe d'âge, ça fait 8 000. Enfin, le bac, à l'époque, sert essentiellement ceux qui, au fond, veulent faire des carrières administratives, en partie profession libérale, et de façon beaucoup plus secondaire, dans la sphère technique, commerciale, de ce type-là. C'est quand même un examen, d'abord, qui a été conçu pour solidifier, d'une certaine manière, les élites de la haute administration. Mais n'empêche que c'est quand même un emblème national. C'est un bac essentiellement littéraire. Pendant presque toute l'entre-deux-guerres, on peut dire que c'est le bac philo qui domine. Il n'existe que deux bacs, d'ailleurs, foncièrement. Il y a un bac philo et un bac, je veux dire, matheux. Il faudra attendre la fin des années 50, début des années 60, pour qu'il y ait un renversement et que le bac mathématique devienne dominant par rapport au bac littéraire. C'est d'ailleurs donc quelque chose de tout à fait nouveau, au fond, qui était pratiquement impensable. Mais ça renvoie quand même à la conception, d'une part, de la culture qu'on se faisait, de la culture légitime, qui était littéraire, c'était les humanités classiques. Au fond, c'est quand même les humanités modernes, c'est déjà plus barbare. À l'époque, la modernité n'est pas un gage de culture. Donc, c'est normal que ce soit le bac philo et le bac littéraire qui l'emportent à l'époque. J'ajoute qu'il y a le problème aussi féminin, qui est peut-être important, qui se présente au début, quand même, le bac, c'est masculin. Il faudra quand même attendre justement les années d'avant-guerre avec une accélération dans l'après-guerre pour qu'il y ait une préparation, pour qu'on accepte que dans les lycées et collèges de filles, il y ait une préparation au baccalauréat. Le dispositif était beaucoup plus important que maintenant. Il ne faut pas oublier d'abord qu'il y avait un bac au niveau de la première. Donc on disait d'ailleurs rhétorique à l'époque, qui dit bien ce que ça veut dire. On ne disait pas première, on disait rhétorique. Et il y avait ensuite un bac au niveau de la terminale. Il fallait avoir les deux parties du bac. Il était organisé, donc c'était déjà un problème. Il y avait un écrit et un oral pour chaque fois. Maintenant, on a des oraux de rattrapage. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas du tout. Il fallait avoir de bonnes notes à l'écrit pour pouvoir passer l'oral, et ensuite on passait l'oral. Donc c'était un dispositif lourd, bien entendu, pour ceux qui les organisaient, mais aussi pour les candidats. Et ce n'était manifestement pas facile. Enfin, il y a des gens qui sont très connus, qui ont loupé le bac, qui l'ont eu à la deuxième ou la troisième session, comme par exemple, entre autres, François Mitterrand.
L'oral de mon premier bac hante encore parfois mes rêves. Je me vois face à l'examinateur dans cette salle de la faculté des lettres de Poitiers, aux bonnes odeurs de poussière d'été. Les mots dansaient dans ma tête et restaient au niveau du larynx, et le peu qui en sortait échappait aux normes grammaticales. Sale affaire. Cet examen raté, faute d'avoir émis un son clairement articulé, je ne cesse pas de le passer. François Mitterrand.
Dans toute la France se déroulent ces jours-ci les épreuves orales du baccalauréat. Ces épreuves attirent un nombre de candidats qui est probablement sans précédent, puisque la session de juillet dernier s'est soldée, chiffre record, par 66% d'échecs.
Y a-t-il une crise du baccalauréat ? C'est la question que nous poserons aujourd'hui.
Inter, actualité.
Jacques Madaule, de l'Académie française.
Peut-être conviendrait-il d'examiner si des programmes dont l'esprit reste encore imprégné de celui du 19e siècle ne devraient pas être profondément transformés pour les adapter aux couches sociales nouvelles qui doivent être appelées à bénéficier de l'enseignement du second degré. Je crois que cela rendrait compte alors du fait que la crise du baccalauréat, si elle a été aggravée par la guerre, est tout de même plus ancienne que la guerre et qu'on l'a constaté déjà, par exemple, avant 1940.
Eh bien, permettez-moi d'indiquer que tout le monde vous approuve silencieusement. J'ai bien dit tout le monde.
Bien sûr, absolument tout le monde.
Je vais me permettre de faire...
C'est Jean Calvel qui intervient.
Une petite remarque. Moi, j'étais venu ici avec l'idée de m'opposer violemment à l'université qui allait se poser, je pense, en défenseur du baccalauréat. Je me disais, moi, le baccalauréat est une imposture pour des tas de raisons. Et puis, je m'aperçois que les représentants de l'université attaquent eux aussi le baccalauréat. Alors, nous allons nous trouver tous d'accord. Je n'ai pas la prétention de représenter l'opinion publique, mais enfin, une petite partie au moins. Et je crois que tout le monde est d'accord au moins sur deux points, à savoir que le baccalauréat qui devrait être la sanction d'une culture générale est aujourd'hui la sanction de connaissances encyclopédiques, et que d'autre part, le baccalauréat, aujourd'hui, qui devrait être un examen de tête bien faite plutôt que bien pleine, est une sanction nécessaire pour parvenir à de nombreux postes, dans les administrations notamment. Or, ce côté extension indéfinie des programmes a rendu le baccalauréat plus difficile que jamais, le nombre des échecs en est une preuve d'ailleurs, si bien que beaucoup de jeunes gens, aujourd'hui, ont beaucoup de mal à parvenir à ces situations pour lesquelles le baccalauréat est indispensable. Il y a donc là, je crois, un problème social qui se pose et qui conviendrait d'envisager assez vite.
Inter, actualité.
Claude Lelièvre, à partir des années 50, il va y avoir une succession de réformes du baccalauréat, ou tout au moins une succession de volontés de réformes.
On est dans une sorte de contradiction interne, c'est un examen bizarre, puisque c'est le droit de passage à l'université et c'est d'un autre côté un examen terminal. Donc il y a cette hésitation, cette valse hésitation, est-ce qu'on va faire sélection ou pas? C'est un peu normal. Alors cela dit, la force des... Alors en gros, à chaque fois c'est remis sur le chantier, mais la force des choses s'impose. Et la force des choses est des forces sociales qui tiennent précisément au baccalauréat.
Ça c'est important. C'est... Hein,
comme on y tient, comme il y a plus en plus de personnes qui y tiennent d'avoir ça... ou bien ensuite au moins ça, eh bien, au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de monde, c'est de plus en plus impossible de faire la réforme. Mmh. Au fond, les changements réels se font essentiellement sous la Ve République, hein, le début dans le dispositif, dans l'augmentation,
dans la massification.
Dans la massification plus tard. Dans les années, à la fin des années 50, début des années 60, on passe effectivement de l'hégémonie du bac philo, du bac littéraire, à l'hégémonie du bac mathélème. D'ailleurs, ça se voit dans le pourcentage respectif de ceux qui ont ce bac cadre, supérieur et ouvrier. Le bac mathélème, au début, c'est un bac où il y a un pourcentage d'enfants d'ouvriers relativement important. Parce qu'il était second. Et les enfants de cadre supérieur, profession libérale, bon, c'est un pourcentage relativement peu élevé dans les années 50. C'était l'inverse, bien entendu, dans le bac littéraire. Et les choses se retournent, évidemment, lorsque le bac mathématique devient supérieur sociologiquement
et économiquement
au bac. Alors là, les proportions s'inversent. C'est, du coup, le nombre d'enfants d'ouvriers diminue proportionnellement dans ce bac et le nombre de cadres supérieurs, profession libérale, augmente. Alors, il y a aussi le problème des femmes. C'est le moment... Alors, c'est une affaire très compliquée, puisque c'est le moment aussi, dans les années fin des années 50, début des années 60, où la proportion de... Dans la proportion... Sur 100 bacheliers, on a, pour la première fois, 50% de bachelières. Mmh. Hein, donc, c'est un moment aussi de retournement de la prédominance femme-homme. Puisque, après tout, maintenant, il faut quand même savoir qu'il y a une majorité de bachelières chez les bacheliers. Car les filles, scolairement, réussissent mieux. Sauf, évidemment, dans certains bacs, et en particulier le bac le plus prestigieux, celui qui était le bac C, où il y a toujours moins de filles que de garçons. Encore que, par exemple, le moment post-68, surtout les années 70 très féministes, montre une avancée très rapide en 5 ans des femmes dans le bac C, par exemple. Donc il y a des moments extrêmement importants de changement.
Pendant les semaines qui précédèrent le bachot, je connus des joies sans mélange. Il faisait beau, et ma mère me permit d'aller étudier au Luxembourg. Je m'installai dans les jardins anglais, au bord d'une pelouse, ou près de la fontaine Médicis. Je lisais Faguet, Brunetière, Jules Lemaître, je respirais l'odeur du gazon, et je me sentais aussi libre que les étudiants qui traversaient nonchalamment le jardin. Je pris grand plaisir à passer mes examens. Dans les amphithéâtres de la Sorbonne, je coudoyais des garçons et des filles qui avaient fait leurs études dans des cours et des collèges inconnus, dans des lycées. Je m'évadais du cours désir. J'affrontais la vérité du monde. L'examinateur de lettres me flatta en me parlant sur le ton de la conversation. Il me demanda si j'étais parente de Roger de Beauvoir. Je répliquai que ce nom n'était qu'un pseudonyme. Il m'interrogea sur Ronsard. Tout en étalant mon savoir, j'admirais la belle tête pensive qui s'inclinait vers moi. Enfin, je voyais face à face un de ces hommes supérieurs dont je convoitais les suffrages. Aux épreuves de langue, cependant, l'examinateur m'accueillit ironiquement. « Alors, mademoiselle, vous collectionnez les diplômes ?» Déconcerté, je me rendis brusquement compte que ma performance pouvait paraître dérisoire, mais je passais outre. Je décrochai la mention bien, et ces demoiselles, satisfaites de pouvoir inscrire ce succès sur leur tablette, me firent fête. Mes parents rayonnaient. Jacques, toujours péremptoire, avait décrété « Il faut avoir au moins la mention bien ou pas de mention du tout. » Il me félicita avec chaleur. Zaza fut reçue aussi. Mais pendant cette période, je me souciais beaucoup moins d'elle que de moi. Simone de Beauvoir, Les mémoires d'une jeune fille rangée, 1958.
Claude Lelièvre, parmi les réformes, il y en a une qui va instaurer le bac technique.
C'est une affaire extrêmement compliquée parce qu'il y avait des brevets techniques. Tout simplement, il y a une montée en dignité. Le brevet technique passe à un niveau supérieur et devient bac technique, comme on aura un processus du même ordre au niveau du bac professionnel, où, en gros, le BEP plus quelque chose va donner un bac professionnel.
Quel examinateur ? Enfin, papa, tu rêves ou quoi ? Je te parle de mon bac !
Les sujets du bac de Madeleine Chapsal, pièce radiophonique de 1984.
C'est toi d'ailleurs qui voulais que je t'en parle. Moi, je trouve ça un peu rétro d'aller discuter des sujets de son bac avec son père. Bon, enfin, puisque ça te fait plaisir. Bon, ça te fait plaisir, au moins.
Je ne sais plus, Benjamin.
100 fois, tu me l'as rabâché, cette histoire. Celle des sujets de ton bac à toi.
Ah oui ?
Rappelle-toi, quand tu rentrais à la maison, ton père t'a demandé de les lui montrer. Et la première chose qu'il t'a dite, c'est « J'espère au moins que tu n'as pas pris celui-là, sur l'art d'être heureux par ce vieux con d'Alain. C'est l'attrape-nigaud carabiné. » On dit que des bêtises, c'est inévitable. Et au maximum, on a 9,5, même pas la moyenne. Et justement, c'était celui que tu avais pris. Alors, pour éviter l'engueulade, tu as menti, et tu as dit que tu avais pris le deuxième sujet. Très bien, t'as dit ton père. Un sujet sur le patrimoine. Ça me plaît, ça. Montre-moi ton brouillon. Bien sûr, tu n'en avais pas. Tu as dit que tu l'avais jeté, mais il a insisté. Alors, résume-moi ton plan, tes idées. Tu étais tellement affolé que t'as dit n'importe quoi pour changer la conversation. La petite bonne est enceinte. Ton père a fait un bon, mais un bon. Comment le sais-tu, il t'a dit? Parce que c'était vrai. Et c'était de lui. Il s'en doutait, mais il était pas sûr. Le pataquès. Ah, t'avais réussi ton coup. Il n'était plus question de toi. Ils l'ont fait avorter et tout. Quelle histoire. 10 fois tu me l'as raconté. Et chaque fois tu terminais en me disant « Le plus beau, c'est que je l'ai eu mon bac. Avec mention. Le bonheur m'a porté bonheur. »
Les voyageurs pour Châteauroux, Limoges, Montauban, Narbonne, en voiture...
Voilà, je suis diplômé.
Le beau roman est terminé.
Je prends le train ce soir. Adieu Paris, ma ville. Adieu les jours de vrai bonheur. La bohème charmante et les amours faciles. Tout ce qui parlait à mon cœur.
La comtesse Bok-Bok, son salon et ses luces.
Les rendez-vous au fond du parc du Luxembourg.
La Sorbonne terrible
et sa poussière illustre.
Et ma chambre tout près du ciel.
Près de l'amour, près de l'amour.
Adieu les vieux copains, les amis que je laisse, et vous petites femmes exquises que j'aimais.
Adieu tous mes printemps et tous mes mois de mai.
Adieu jeunesse.
Comme j'étais un bon élève, mais sans plus, j'ai passé le bac avec une dispense la première partie. J'étais à Montaigne et puis à Louis-Grand.
Le peintre Bernard Dufour se souvient de son baccalauréat.
D'abord à l'école d'Alsace, puis à Montaigne, puis à Louis-Grand. Toujours tout ça aux environs de Luxembourg. Donc je passe le bac, le premier bac en 38, le deuxième bac en 39. Et à ce moment-là, à Louis-Grand, comme dans tous les lycées, mais on pouvait faire au deuxième bac, il y avait le premier bac, j'avais fait latin-maths, et dans le deuxième bac, il y avait un bac de philo et un bac de maths. Et on pouvait cumuler les deux. Et donc j'avais décidé de cumuler les deux. Bon, le bac arrive, je passe les deux, maths philo, et je suis collé à un des oraux, je ne me rappelle plus lequel. Donc, je dois repasser en octobre. Mais octobre, c'est septembre. Et le 2 septembre, c'est la guerre. Donc la guerre commence. À ce moment-là, on est dans la forêt de Rambouillet. Et donc, il fallait que j'aille passer le bac à Versailles. Donc, je traverse la forêt en bicyclette pour aller prendre le train à Rambouillet. Je vais passer mon bac et je reviens. Et je suis reçu. Et mon souvenir incroyable, c'est que je trimballais une énorme boîte en fer ronde dans laquelle il y avait un masque à gaz. Et donc voilà, quand j'ai eu fini de passer mes bacs, et que j'ai été complètement bachelier, philomathe, ce qui n'est pas rien, je suis entré dans la vie avec un masque à gaz en bandoulière. Moi, j'ai un souvenir assez ennuyé de tout ça, quand même. J'étais un bon élève, mais enfin, bon, un bon élève de Louis-Grand, vous voyez, ça me barbait un peu tout ça. C'était vraiment du bachotage. Et la vie n'a commencé que longtemps après, très longtemps après. J'ai un autre souvenir lié à tout ça, c'est que j'ai eu un des premiers exemplaires du Gaffio, vous savez, l'énorme dictionnaire que vous avez eu. Il est sorti probablement en 38 ou 39. Et il y avait des illustrations. Et je ne sais pas, ça veut dire quand même ma détresse sexuelle de l'époque incroyable, parce que on n'était pas gays comme des lurons, comme les jeunes gens d'aujourd'hui. À cette époque-là, c'était d'une tristesse mortelle. Et je me rappelle m'être caressé, d'avoir lu le Gaffio de la main gauche, comme dit Stendhal, devant un lit de débauche romain, pour lequel il y avait une vignette minuscule, une des rubriques du Gaffio. Alors ça, je dois dire que quand je pense à ça, je trouve ça d'une tristesse fantastique. Hein. C'est dire l'état de détresse sexuelle dans lequel notre génération, dans les lycées, et j'étais pas le seul, on était tous comme ça.
Le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse.
Le président Georges Pompidou à Albi en 1970.
Qu'est-ce qu'on veut faire du bachot? Ou bien c'est un examen d'enseignement supérieur, un premier titre de l'enseignement supérieur, et qui ouvre toutes grandes les portes des facultés, qui donne un droit à poursuivre les études. Et alors, il faut évidemment qu'il soit difficile. Il faut évidemment qu'il institue une sélection, je n'ai pas peur du mot. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas laisser aller vers des études prolongées des gens qui n'ont pas subi la préformation indispensable, nécessaire. Après tout, on peut se faire coller au bachot et on peut s'y représenter. Et puis on peut ne pas avoir son bachot et réussir très brillamment dans l'existence. Il n'y a pas que le baccalauréat dans la vie et cette espèce de hantise et de respect général en France pour le baccalauréat est probablement absurde. Si par contre, on considère que l'enseignement supérieur doit faire lui-même et assurer lui-même les règles de son recrutement, eh bien alors, le baccalauréat peut devenir un simple certificat certifiant que vous avez fait convenablement, poursuivi convenablement des études secondaires sans plus, mais que ça ne vous dirige pas obligatoirement vers des études prolongées ou longues. Cela peut vous donner simplement un certificat de ce que vous étiez et de ce que vous saviez à un certain moment.
Trudeliev, pour marquer un petit peu le bac, voir comment il s'est inscrit dans le XXe siècle, ce que l'on ne peut pas ignorer, c'est la médiatisation extraordinaire du bac.
Dès le début, il y a des digestes de bon, ça rejoint ce que on envisageait tout à l'heure. Enfin, à la fois, il s'est banalisé, mais en même temps, donc c'est un facteur évidemment de sensibilisation d'une nouvelle partie de la population, mais on pourrait dire en même temps qu'il y a beaucoup moins d'enjeux. Mais il y a toujours beaucoup d'enjeux. Je pense des enjeux d'ailleurs qui sont assez différents selon les couches sociales. Pour les uns, ça peut être de se reproduire et de monter. Pour d'autres, de ne pas être exclus. Donc il y a une série d'enjeux et manifestement, bon, il y a une très forte médiatisation qui, je pense, parce que c'est quand même caractéristique qu'il y a beaucoup d'autres, examens, il y a beaucoup d'autres concours. Simplement, il faut quand même pas oublier donc qu'il a une histoire et en même temps qu'il se passe en même temps, au même moment, partout. Enfin, il y a quand même une sorte d'organisation de l'État au point que, c'est quand même curieux, au niveau des sujets, on revient à l'idée qu'il pourrait peut-être avoir des sujets nationaux. Je crois que la symbolique nationale est très forte. Donc la seule chance pour ceux qui voudraient le supprimer, ce serait de le régionaliser.
Oui. Et ça,
Mais il y a bien entendu, il y a des luttes contre.
Nous étions quatre bacheliers sans vergogne, la vraie crème des écoliers. Pour offrir aux filles des fleurs sans vergogne, nous fîmes un peu voleurs. Les sycophantes du pays sans vergogne, aux gendarmes nous ont trahis.
À peu près tous les élèves qui ont parcouru le cycle de l'enseignement secondaire finissent par être reçus bacheliers. Le déchet est insignifiant. Or, la différence est énorme entre le bon élève qui, à la fin de ses études, réussit au baccalauréat du premier coup et brillamment, et le mauvais élève qui finit par le décrocher après 3 ou 4 tentatives pour chacune des 2 séries. Un beau jour, avec un peu de chance et beaucoup d'indulgence de la faculté, il approche de la moyenne. On le fait admissible avec des points de supplément. Après l'oral, on le reçoit avec de nouveaux points de supplément. Eh bien, ce malheureux à qui l'on a pitoyablement tendu la perche, le baccalauréat l'introduit dans l'élite de la société française et le met sur le même rang que le meilleur de la classe. Le diplôme ne portera pas trace ni des notes, ni des tentatives multiples. La mention elle-même n'y est pas inscrite. Le diplôme efface à tout jamais les inégalités qu'on a soigneusement constatées pendant tout le cours des classes par des compositions et des prix. Il assimile aux meilleures études les études faites sans goût, sans travail, sans intelligence et sans profit. Des différences de mérite personnel que ces études ont manifestées, rien ne doit subsister quand on sort du lycée pour entrer dans la vie, où seul compte la distinction des classes. Le baccalauréat est à la fois barrière et niveau. Edmond Gobelot, La barrière et le niveau, études sociologiques sur la bourgeoisie française, Paris, 1925.
Claude Lelièvre.
Moi, je suis persuadé que pour l'essentiel, en tout cas pour ceux que je connais assez bien, c'est-à-dire en particulier philo et histoire, je pense que la tendance, c'est de plus en plus difficile, alors même que pourtant, il y a une masse de plus en plus importante qui passe. Moi, je trouve que c'est quand même assez étrange. Alors, bien sûr, ça renvoie aussi aux évolutions des disciplines. Si vous prenez par exemple l'histoire, bon, enfin, auparavant, en histoire, on était interrogé à l'oral d'abord. C'était pas un écrit. Et deuxièmement, au fond, c'était quand même une histoire, bon, relativement factuelle et événementielle. C'est-à-dire que c'était la conception de l'histoire de l'époque. Mais si vous prenez la première moitié du XXe siècle, les écoles des annales n'ont pas encore pénétré le secondaire, et vous avez des interrogations surtout sur le plan politique, diplomatique alors que...
Ça fait appel à la mémoire.
Et ça faisait appel à une mémoire, et une mémoire assez événementielle, et ensuite, bien entendu, il y a l'économie, le social, le culturel qui s'est mis en plus, au moins autant, et avec des écrits qui font appel à des réflexions sur des documents, etc., et à organiser, mais c'est quelque chose de... c'est un effort considérable. Et pourtant, ceux qui le passent, d'une certaine manière, sont une masse grandissante. Bon, si vous prenez la philosophie, au départ, finalement, vous aviez des questions qui étaient relativement des questions de cours. Et alors même que c'était des privilégiés, une minorité qui passait, pour une future élite. Maintenant, c'est pour une élite large, très élargie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous avez des sujets qui prétendent à une réflexion très personnalisée, relativement aiguë, etc. C'est quand même assez curieux que, pour moi, donc, c'est encore un autre type de contradiction, c'est qu'au fur et à mesure du temps, au fond, si on prend au sérieux les sujets, moi, il me semble qu'ils ont une tendance à être plus difficiles.
Et à la fin, on se rend compte quand on l'a que ça nous sert pas à grand chose, quoi, si on va pas plus loin, en fait. Mais c'est assez marrant, en fait, ces périodes. C'est plutôt excitant, en fait, je trouve. Les périodes des examens, en général, tout le monde se parle, surtout les oraux, c'est pas mal. Non, d'un coup, on apprend à connaître les gens, je trouve.
C'est un bon souvenir.
Maintenant qu'on l'a et que c'est derrière nous, c'est plutôt un bon souvenir, ouais. Je sais pas pour toi, ouais.
Et vous avez l'impression que c'était un examen difficile ?
Franchement, non. Enfin, pas en ce qui me concerne. Moi, j'ai trouvé ça assez difficile, en fait. Enfin, plus difficile que ce à quoi je m'y attendais.
Vous pensez que c'est un examen qui pourrait être modifié ? On pourrait le supprimer, le changer ? Ou il vous semble bien comme il est ?
Non, moi, je pense que ça devrait plus être basé sur les contrôles continus et moins sur un examen final. Je trouve ça très aléatoire, en fait. Mais bon, c'est rigolo, hein.
Tourneuses et militants pour une société meilleure, dont y seraient les dirigeants, où ils pourraient faire leur beurre. Voici le flot des étudiants, propres sur eux et non violents, qui s'en vont grossir les rangs, les bureaucrates et les marchands. Étudiants, poil aux dents, je suis pas de ton clan, pas de ta race, mais je sais que le coup de pied au cul, que ce philo bourgeois qui passe, il vient de l'école de la rue, et il salit ma godasse. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant, alors tu seras moins que rien. Ah oui, ça, je veux bien.
Lieu de mémoire, aujourd'hui le baccalauréat, Sophie Barouillet avec André Chervel, ancien chercheur à l'Institut National de Recherche Pédagogique et auteur d'un livre à paraître chez Belin, La culture scolaire, et Claude Lelièvre, professeur d'histoire de l'éducation à l'Université René Descartes, auteur de l'histoire des institutions scolaires chez Nathan et du bac des présidents chez Odile Jacob, et les souvenirs de Madeleine Chapsal et de Bernard Dufour.
Tu refileras des cancers à tour de bras et au prolo des ulcères parce que c'est un peu moins cher. Et le tiers-monde qui a besoin de toi, là c'est sûr que t'iras pas malgré tous ceux qui vont crever. T'oublieras que je t'ai chanté, la médecine est une putain, son macro c'est le pharmacien. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Bah alors qu'est-ce que tu veux être ? Je sais pas, moi, poète.
Les textes étaient lus par Emmanuel Barouillet, Les sujets du bac de Madeleine Chapsal, pièce radiophonique de 1984 réalisée par André Lemaître, étaient interprétés par Jacques François et Gérard Lartigot. Archivina Martinoget, documentation musicale Mireille Vasseur, mixage Alain Claudel, assisté de Christian Keller, réalisation Stéphane Shears.
We'll be right back.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 juillet 1998.